Chapitre 2. C'était comme une bosse verte sur l'étendue blanche décolorée du désert. Une montagne ovoïde sans aspérité, couverte d'une herbe abondante et grasse. Une sorte de bain de sucre, dont la hauteur frisait les 1000 mètres et que le vent ébouriffait de son peigne invisible, fou. Lisa se passa nerveusement la main dans les cheveux. Ses ongles courts crissèrent désagréablement sur sa coiffure en brosse, qui dénudait sa nuque comme pour mieux l'offrir au couperet d'une guillotine imaginaire. Dans l'argot des pilotes, on appelait ça la coupe condamnée à mort. À présent, on distinguait très nettement la peau de son crâne sous la mince toison aux allures de lichen qui accentuait encore la pâleur de son visage aux pommettes extrêmement marquées, asiatiques, et son grand front bombé que commençaient à parcourir les fines ridules de la trentaine. Des gens couraient sur la bosse verte, coulaient en grappe le long des sentiers. Toute la population de la montagne désertait les hauteurs pour se répandre dans la plaine, flaques grouillantes, informes, secouées par les spasmes d'un exode incompréhensible. Lisa plissa les yeux, attentive aux différentes phases du phénomène. Soudain, devant elle, la montagne se mit à frémir, à tanguer, à reculer de droite et de gauche, comme si elle essayait de se dégager de ses racines pour se lancer à la poursuite des fuyards. Tout autour, le sable refluait, agité de tourbillons furieux. Enfin, une patte apparut. Un membre antérieur court et trapu, analogue à celui d'une tortue et pareillement gainé d'écailles. D'autres pattes émergèrent, labourant la plaine, broyant les rocs et les croûtes de sel. La tête ne pointa qu'en dernier. C'était une boule caparaçonnée d'os et de cornes, où la bouche et les yeux demeuraient totalement invisibles. Dans le dos de Lisa, Junia, la grosse femme qui commandait le vaisseau, coupa le projecteur. L'écran redevint blanc. « Tu n'avais jamais vu ça, pas vrai » grasseilla-t-elle d'une voix que le tabac rendait abominablement rauque. On les appelait les animaux montagnes. Ils s'enfouissaient pour hiberner, ne laissant dépasser du sol que leur dos. Ils pouvaient rester comme ça 1000 ans avant de refaire surface. « Mais l'herbe ?» questionna Lisa interdite. Son interlocutrice éclata de rire. « Du poil, mon petit, du poil !» Il y eut un moment de silence. Comme toutes les autres parties du vaisseau, la minuscule salle de projection empestait l'ozone. Il y régnait une chaleur d'étuve qui rendait très vite insupportable le contact du moindre vêtement. Et Junia, peu soucieuse de respecter la sacro-sainte étiquette militaire, arborait pour tout uniforme un gilet de peau kaki abondamment maculé de sueur et un slip de nylon blanc à la transparence sans équivoque. Gênée par cette atmosphère de grasse intimité, Lisa gardait obstinément les yeux fixés sur le rectangle vide de l'écran. Elle avait conservé sa combinaison de vol en toile grise depuis le début du voyage, ne s'accordant aucun relâchement, luttant même pour ne pas céder à la tentation d'en rabattre la fermeture éclair jusqu'au nombril. Elle dut faire un effort considérable pour mobiliser ses cordes vocales. De quand date ce film ? Sa voix avait jailli, étranglée. D'une centaine d'années. Il a été pris sur une planète du nom d'Almoa. Les bêtes montagnes y constituaient de véritables troupeaux. Les chroniques prétendent qu'elles peuplaient le désert, hibernant une dizaine de siècles, ne s'éveillant que pour mourir. Aujourd'hui, la race en est éteinte et Almoa a été détruite. Ces animaux sont devenus mythiques. Tu veux en voir davantage ? Lisa acquiesça. L'écran fut une nouvelle fois envahi par une nuée de formes mouvantes. Une horde de collines vivantes se déplaçait au milieu d'une plaine, véritable chaîne de montagnes en marche, et des hommes minuscules fuyaient devant la lente progression de cette muraille titanesque abandonnant village et cité. Une autre séquence détaillait la destruction d'une ville pourtant fortifiée. L'animal s'y jetait, tête basse, sans colère, avec une nonchalance somnambulique qui contrastait étrangement avec le spectacle d'apocalypse qui naissait sous ses pas. Immeubles, monuments, remparts, tout succombait au laminage de cette panse énorme. Créneaux, dômes et tours finissaient pareillement en un magma de pierrailles broyées. Et la bête aveugle poursuivait son chemin, laissant derrière elle un sillage de ruines. Le film sauta une brève seconde. À présent, une troupe de cavaliers tentait d'enrayer l'avance de l'animal. Un petit canon sans recul était hâtivement mis en batterie. Lisa se rongeait l'ongle du pouce. Privée de son, les images avaient quelque chose d'irréel. Elle vit l'arme sauter sur place, l'obus s'élever dans les airs, amorcer sa courbe parabolique et frapper la bosse du pachyderme. Le pelage évoquait à tel point l'herbe qu'elle eut l'impression que le projectile venait de percer la crête d'une montagne. Pourtant, presque immédiatement, le sang jaillit du point d'impact, lourd, épais, des rigoles écarlates dévalèrent les flancs, les versants, de la bête pour aller tacher la pierre blanche des décombres. Des chemins gluants s'ouvraient dans la toison. Une main moite se posa sur le cou de Lisa. Même touchés au moyen d'obus bourrés de cyanure, les animaux montagnes mettaient toujours plus d'une semaine à mourir, chuchota la voix rauque du commandant. On ne connaît pratiquement rien de leur anatomie, car, sitôt rendu le dernier soupir, leur corps se décomposait à une vitesse foudroyante. Les archives ne contiennent que des schémas fantaisistes, des coupes qui procèdent plus de l'enluminure moyenâgeuse que du croquis scientifique. Autant dire que leur physiologie demeure un profond mystère. Lisa opina en silence. La chaleur de la grosse femme se communiquait à sa nuque, s'étendait sur ses épaules, gagnait sa poitrine comme une nappe de fièvre. Elle aurait voulu se secouer, rejeter la main humide et brûlante qui collait à son cou comme un mollusque au redoutable pouvoir urticant. Elle n'osa pas. Une goutte de sueur cascada sur l'arête de son nez fin aux transparences de porcelaine. « Il y a eu des légendes », continuait la voix de plus en plus éraillée de sa supérieure. On dit qu'à l'origine, les animaux montagnes étaient de véritables planètes vivantes, flottant dans l'espace, têtes et pattes rentrées, soufflant par leurs évents une atmosphère artificielle. Certains même ont parlé d'animaux-mondes, de baleines cosmiques. Alors le ministère de la Recherche a dressé l'oreille. Réaction légitime. Tu imagines? Un animal capable de quitter le sol et d'entreprendre une migration à travers l'espace galactique sans rien avoir à redouter du vide, des écarts de température titanesques, des rayons mortels, des... Une carcasse de plusieurs milliers de tonnes qui essaime d'une planète à l'autre, aussi facilement qu'un vol d'hirondelle saute la mer pour passer l'hiver en Afrique? Cela suppose une organisation physiologique d'une incroyable résistance. Lisa déglutit. La question qu'elle voulait poser adhérait à sa langue desséchée. Elle hésita, faillit renoncer, puis se lança. « Vous voulez dire que ces bêtes constitueraient, en quelque sorte, de véritables vaisseaux cosmiques vivants? Des fusées de chair et d'eau? C'est ça, petite, exactement. Aussi dingue que cela puisse paraître. Des vaisseaux au fuselage de peau. Des vaisseaux aux tuyères d'organes et de muscles qui puisent leur carburant dans un estomac. Tu y penses? Plus de canalisation, de fils électriques, de moteurs, mais bel et bien des veines, des nerfs. Un corps assez puissant pour défier tous les pièges de l'espace, pour s'affranchir des pesanteurs, des champs d'attraction, et ne puisant cette énergie que dans son seul métabolisme. C'est totalement impossible. C'est ce qu'on a pensé tout d'abord, et puis il y a eu des faits troublants. Des squelettes géants échoués sur des mondes qui n'avaient pu en aucune manière leur donner la vie. Des échos étranges sur les enregistrements des sondes spatiales. Des échos de météores capables de modifier leur course et notamment de faire demi-tour. Bref, tout un puzzle de petits indices irritants. Il y a eu de belles batailles théoriques dans les labos de la Confédération. On a même parlé de monstres du Loch Ness de l'espace. Et puis le ministère de la Défense a posé la patte sur le dossier. Et tout est devenu beaucoup plus sérieux. Lisa tressaillit. L'armée? Pourquoi? La grosse femme haussa les épaules. Réfléchit, gourde. Que se passerait-il si on parvenait à percer les secrets du métabolisme d'un tel animal? En admettant qu'il existe, bien sûr. Quelles en seraient les applications techniques? On pourrait envisager d'en faire bénéficier l'homme. Et quand je dis l'homme, je pense aux militaires. Je me trompe? Pas du tout. Si on réussissait à connaître le fonctionnement physiologique des animaux-monde, on pourrait imaginer une cascade de mutations possibles. Comme des cosmonautes sans scaphandre, observa Lisa. Des gens capables de s'arracher à n'importe quelle force d'attraction par leur seul pouvoir musculaire. Des êtres sécrétant leur propre oxygène. Voilà, une révolution totale. L'homme a franchi à jamais du support mécanique. L'homme libre et nu, apte à se mouvoir dans l'espace comme un poisson dans l'eau. Elle devenait lyrique. Lisa ne put s'empêcher de l'abattre en plein vol. C'est impossible, une pure utopie, totalement chimérique. La main sur son cou se crispa, elle eut mal. Tu n'es pas là pour juger, coupa la grosse femme d'une voix beaucoup plus sèche. Des décisions ont été prises en haut lieu. Il semblerait que ce que tu appelles utopie intéresse beaucoup nos dirigeants. Mais pour bâtir la moindre hypothèse, il faudrait. Oui, murmura le commandant d'un ton à la fois doucereux et menaçant. Lisa se troubla. Il faudrait disposer d'un sujet d'expérience. La main quitta sa nuque. Cette subite rupture de contact terrifia la jeune femme comme l'annonce d'un châtiment imminent. Une seconde, elle fut à deux doigts de la plus intense des paniques. Ta place est réservée dans la chambre d'information, lâcha l'officier. Étudie l'historique des animaux montagnes. Je te verrai plus tard. La porte de la coursive suinta. Lisa se redressa d'un bond pour le salut rituel, mais elle était déjà seule. Elle serpenta un long moment à travers les boyaux obscurs des coursives sans rencontrer âme qui vive. Par endroits, les réseaux de canalisation tapissant les parois laissaient échapper des fuites de gaz ou des courtes gerbes d'étincelles. La plupart des lampes destinées à éclairer le parcours étaient mortes dans leurs boîtes grillagées et des dizaines de corridors s'en trouvaient plongés dans les ténèbres. Lisa affronta ses trajets, les dents serrées, la peau hérissée par les réminiscences de ses terreurs enfantines. Elle localisa enfin la chambre d'information et s'y verrouilla avec un soulagement disproportionné. C'était une sorte de placard métallique étroit, totalement inconfortable, nanti d'un écran vidéo et d'une paire d'écouteurs vétustes. Elle dut taper trois codes numériques avant que la console n'accepte de livrer ses informations. Il n'y avait aucun autre processus d'identification, phonique ou digital. Comme partout ailleurs dans le vaisseau, on ne pouvait se départir de la fâcheuse impression de manipuler une pièce de musée. L'ordinateur ne lui délivra aucune révélation inédite. Elle put voir défiler une série de photos jaunies, un bout de film représentant la lente dérive d'un animal montagne à travers le désert. Une pile de schémas constituait la documentation graphique du dossier. On y trouvait pêle-mêle une vue en coupe présumée de la dite bête, telle que l'avaient imaginée les scientifiques de l'époque, au hasard d'observations éparses et rapides. La reconstitution, nourrie d'études et de croquis furtifs exécutés alors que l'animal, sous l'action du pourrissement accéléré, perdait déjà forme et armature, laissait apparaître de grandes zones d'incertitude. Au fur et à mesure qu'on s'éloignait de l'épiderme en direction du centre, le flou des hypothèses envahissait les planches anatomiques sous l'aspect de taches blanches flanquées de points d'interrogation. Et devant ces dessins inachevés, on était tenté de croire que les pachydermes, faute de tripailles localisables ou d'organes distincts, ne se composaient que d'une enveloppe creuse, telle de monstrueuses tirelires aux flancs évidés. La dernière bobine déroulée, Lisa demeura perplexe. Ces images d'archives, démodées, imprécises, ne lui apprenaient rien de neuf. Elles surgissaient d'un autre temps, d'une autre époque, ressuscitant un monde aujourd'hui mort, Almoa. Une planète artificielle, la dernière qu'on avait mise en service et dont les boulons devaient à présent se trouver éparpillés aux quatre coins du cosmos. Les animaux montagnes n'avaient pas survécu au cataclysme final. Comme les licornes, les yétis et les hydres à sept têtes, ils avaient rejoint l'arsenal des mythes et sortilèges. Elle pianota le code de sortie. L'écran s'éteignit dans une étincelle bleutée et la porte coulissa. Au moment où elle franchissait le seuil de la cabine, la jeune zoologue faillit buter sur la masse imposante de Junia qui se tenait immobile derrière le battant. Dans l'obscurité de la coursive, la silhouette de la grosse femme prenait une densité menaçante, une épaisseur trouble. « Tu as vu ? » interrogea-t-elle sans bouger d'un pouce. Lisa hocha la tête. « Oui, et je ne comprends pas. Ces animaux sont morts, on n'a jamais rien appris sur leur fonctionnement physiologique. Pour faire avancer la thèse, il faudrait un spécimen parfaitement conservé, un cadavre pris dans les glaces, par exemple. « J'ai mieux que cela à te proposer, ricana Junia. Une bête en hibernation, vivante, flottant dans l'espace depuis un temps indéterminé et dont les échanges vitaux se poursuivent dans la plus complète harmonie. » Lisa écarquilla les yeux, battit des paupières. « Un animal montagne ? Je te l'ai dit, beaucoup mieux que cela. Les hibernants d'Almoa feraient figure de souris à côté d'elle. Non, il s'agit d'un être aux proportions colossales, aussi vaste qu'un planétoïde. Une planète vivante, si tu préfères. Vous êtes sûr de ce que vous avancez ? » Junia claqua la langue avec irritation. Écoute, souffla-t-elle le sourcil bas, je ne suis pas ici pour t'endormir avec des contes de fées. Il y a 3 ans, une mission d'exploration géologique a failli se cracher sur la masse informe d'un animal qui dérivait à travers le cosmos. Une bête roulée en boule, sécrétant sa propre atmosphère et sa propre pesanteur. Ils n'ont pas osé y aborder, et de peur d'être taxés de folie ou traités de mystificateurs, ont conservé le silence à leur retour sur Terre. Il a fallu près d'un an pour que l'information aboutisse sur le bureau du doyen de l'université de Santa Catala. Il aurait pu balayer le dossier, le classer à la section des données fantaisistes, mais il a décidé de relever le gant, de tenter un gigantesque coup de poker. Et il a eu raison. Tu sais aussi bien que moi que notre université ne brille plus en tête des palmarès depuis longtemps. Aux yeux de l'État, nous sommes devenus des chercheurs improductifs, des songes creux qui ne ramènent jamais rien de monnayable. Et il est de plus en plus évident qu'un jour prochain, on nous coupera les crédits. Seul un contrat passé avec l'État, avec l'armée, peut encore ressusciter notre vieille fac moribonde. Et ce contrat, la bête de l'espace, peut nous l'obtenir. Il suffit que nous puissions percer ces mystères, savoir par quel processus un organisme vivant peut échapper au froid démentiel du vide intersidéral. Vivre sans protection aucune en sécrétant un halo vital, un champ magnétique. Je t'ai déjà expliqué tout cela. Il nous faut tout savoir de ces glandes à oxygène, de ce squelette dont émane une telle force d'attraction. Bref, il nous faut résoudre l'énigme de la bête. Il y va de notre honneur et de notre survie. Par bonheur, personne à part nous ne l'a encore localisée. Il est vrai qu'elle se déplace derrière un champ de météorites qui fait écran et brouille les meilleures sondes. Depuis un an, un groupe de 300 scientifiques, acheminés dans le plus grand secret, ont élu domicile sur le corps de l'animal. Tous appartiennent à l'université de Santa Catala. Le professeur Mikowski les dirige. Je n'ai pas à te le présenter. C'est un spécialiste des questions migratoires. Et vous avez obtenu des résultats ?
Je ne sais pas.
Nous n'entretenons aucune liaison radio avec l'animal. Ceci pour 2 raisons. La première, ne pas courir le risque d'être capté par une antenne adverse. La seconde, parce qu'il semble que les ondes ne parviennent pas à franchir le halo magnétique émis par l'animal. Aucune liaison ? S'insurgea Lisa horrifiée. Non, aucune. Nos amis ont accepté le risque de cette claustration insolite. Ils sont sur l'animal comme des naufragés sans bouteille, et ceci depuis 12 mois. Le temps est venu de collecter les premiers rapports. Ce sera ta mission. Nous te parachuterons sur la bête. Son atmosphère est respirable, quoique faible en oxygène. Tu contacteras Mikovski et les autres chefs d'équipe. Tu auras 24 jours pour réunir la synthèse des premières constatations. Une navette automatique se présentera à cette date, tu y prendras place. Si ta tâche n'est pas terminée, la navette repartira sans toi et ne reviendra pas avant longtemps. Nous ne voulons pas éveiller l'attention des courriers spatiaux par de trop fréquents déplacements dans ce coin désolé de la galaxie. Ce vaisseau qui nous emmène, ce pseudo-raid géologique, ne sont qu'une façade. Je te dépose à l'aller et je te reprends au retour. C'est tout ce que je puis faire. Il y aura un peu plus de 3 semaines entre les deux passages. Pas un jour de plus, pas un jour de moins. Retiens bien ce délai. Sinon, il te faudra attendre une autre mission à Libye. Et tu sais que les crédits nous manquent tragiquement pour organiser ce genre d'expédition. Vous auriez pu demander de l'aide? Surtout pas. Tout doit se faire dans le plus grand secret. Il n'est pas question que les cerveaux d'une faculté chérie de l'administration viennent nous coiffer au poteau. De toute façon, tu n'as rien à craindre. L'animal dort d'un sommeil millénaire, vivant sur sa graisse comme tous les hibernants. Sa complexion n'est pas celle d'un prédateur, son squelette et ses os sont vaguement humanoïdes. De plus, elle semble bien portante, grâce à souhait. Tu seras le contrôleur du ministère, le super prof qui vient en quelque sorte ramasser les copies des savants. Lisa fit 3 pas au hasard, éberluée par tout ce qu'elle venait d'apprendre. « Cet être !» murmura-t-elle au bout d'une minute. « Il est plongé dans l'obscurité ?»«
Oui, à l'origine. »
Mais une ceinture de projecteurs gravite autour de lui, assurant une sorte de jour perpétuel. Leur autonomie est de 5 ans. Tu n'as pas de crainte à nourrir de ce côté-là. La jeune zoologue se passa la main sur le visage. Elle s'aperçut qu'elle transpirait abondamment. « Je voudrais voir des photos, balbutia-t-elle. C'est possible ?»« Mais bien sûr, approuva Junia. Elles sont au coffre dans ma cabine. Je te précède. Ta curiosité est légitime, mais elle risque d'être déçue. » D'emblée, le cliché se révéla flou. Penchée au-dessus du grand carré plastifié, Lisa tenta de se faire une idée plus précise de l'hibernant. Mais elle ne vit qu'un halo brumeux, s'épanouissant comme un nuage autour d'une forme sombre vaguement anthropomorphe. On devinait une sorte de grand corps tassé en position fœtale. La tête nichée au creux des pattes antérieures, des bras repliés. C'est une photo réalisée aux infrarouges, précisa Junia. Elle manque évidemment de netteté. L'équipe de Mikovski y a été larguée avec un matériel important. Des vivres aussi. Assez de tablettes nutritives hydratantes pour tenir 3 ans. En revanche, nous ne leur avons laissé aucune arme. Pas le moindre fusil, pas le plus petit pistolet. Nous ne voulons pas courir le risque d'un accident qui endommagerait irrémédiablement l'hibernant.
Leur accueil sera peut-être un peu froid. Après tout, tu débarqueras en tant que contrôleur.
Tu connais ces scientifiques de haut niveau, toujours un peu mégalomanes, acceptant difficilement d'être surveillés. Il te faudra de la souplesse. De plus, pour stimuler leurs ailes, nous leur avons fait croire qu'ils travaillaient pour le ministère. Tu es de notre côté. Je sais que tu accréditeras cette thèse dans leur esprit. Quand dois-je quitter le vaisseau? Dans 12 heures. Une navette te fera pénétrer dans l'atmosphère artificielle de l'animal. Là, tu sauteras selon la technique la plus classique. Tenter un atterrissage nous paraît hasardeux. Le feu des tuyères pourrait blesser mortellement l'animal, ou du moins lui occasionner de graves brûlures. Pour te récupérer, nous userons d'une méthode aussi artisanale. Un hélicoptère sortit tout exprès de la salle d'exposition du musée de l'air de Santa Catala et qui jouera les intermédiaires entre la surface de la bête et la soute de la navette d'acheminement. Tu as subi l'entraînement adéquat lors de ton stage de formation militaire. C'est en grande partie pour cela que tu as été choisi. Et puis tu connais Mikovski. J'ai vu dans ton dossier que tu avais suivi ses cours pendant tout un trimestre. Tu sauras manœuvrer.
C'est une personnalité insaisissable, parfois difficile à manier. Il ne me reconnaîtra pas, s'esclaffa la jeune femme. Nous étions plus de 500 dans son amphithéâtre. Ça n'a aucune espèce d'importance, conclut Junia. Tu ne vas pas là-bas pour évoquer tes souvenirs d'étudiante. Profite de la nuit qui vient pour te préparer. Va à l'infirmerie, fais-toi administrer une bonne dose d'antifatigue. Ton paquetage sera assez réduit. De toute manière, tu ne devrais avoir aucune difficulté à rejoindre le camp de base. Nous te fournirons une carte théorique. Pas d'autres questions ? Lisa hocha négativement la tête, l'esprit engourdi par le déluge d'informations auquel venait de la soumettre le commandant de bord. Elle répéta mécaniquement « 12 heures », comme pour domestiquer la réalité du fait. Debout près de la porte, Junia, boudinée dans son t-shirt décoloré par la transpiration, lui signifiait déjà son congé. Elle ne dormit que 3 heures, passant alternativement de la veille au cauchemar avec une régularité de métronome. Le visage de Mikovski, son crâne chauve, ses grosses moustaches hypertrophiées n'avaient cessé de la poursuivre, se superposant grotesquement à la masse informe de la bête endormie. À 5 heures, un sous-officier vint la chercher, lui remit une tenue de saut, un parachute qui paraissait sortir d'un magasin d'antiquités et un casque à mentonnière de cuir. Elle s'habilla en s'efforçant de ne plus penser à rien, se laissa conduire par le dédale des coursives jusqu'à la soute où attendait la navette. C'était un appareil sans âge, au boulon cerné d'auréoles de rouille. Des raccords de peinture maculaient ses ailerons sans souci d'esthétique et, en plusieurs endroits, la tôle présentait des bosses inquiétantes, des éraflures qui avaient fait lever sur le fuselage de gros copeaux de métal. Sans un mot d'encouragement, Junia lui tendit un havresac réglementaire. La jeune femme s'en saisit, grimpa dans le véhicule et gagna sa place à côté du pilote. Une sirène annonça l'évacuation de l'aire de départ, des trappes se verrouillèrent, des lampes clignotèrent. Lisa ferma les yeux. Elle savait que la soute allait s'ouvrir, les larguant telle une bombe dans le vide du cosmos, mais elle tenait pas à suivre le détail de la manœuvre qui augmentait sa nervosité. Un chuintement annonça l'ouverture de la trappe. Il y eut un choc, suivi de l'impression de chute libre qu'on peut ressentir dans certains ascenseurs rapides, puis un palier élastique et une accélération qui cloua la zoologue sur son fauteuil. Lorsqu'elle rouvrit les paupières, le hublot s'ouvrait sur une nuit immense, un trou que l'absence de repères privait de toute profondeur. Une espèce de surface charbonneuse piquetée de vagues points lumineux aux allures de mauvais décors de théâtre. La machine vira sur l'aile, amorçant une descente vertigineuse en direction d'un halo nébuleux qu'habitait un noyau sombre. Lisa sentit son cœur s'accélérer. L'objectif grossissait à une vitesse prodigieuse. Elle eut à peine le temps de noter la ceinture de projecteurs satellisés, le bouillonnement tumultueux du cocon atmosphérique sécrété par l'animal que déjà la navette plongeait dans la couche de nuages. L'être endormi était si grand qu'il lui fut impossible d'en avoir une vue d'ensemble. Elle remarqua pourtant la courbure d'un abdomen formidable, la chaîne de montagnes crénelées d'une épine dorsale longue d'un millier de kilomètres. Puis le sol se précipita à sa rencontre et l'anatomie monstrueuse de l'hibernant prit l'aspect banal et rassurant qu'offre tout paysage vu de haut. En se penchant, Lisa eut la sensation de survoler une forêt, une plaine d'herbes folles, un... Le rapprochement gommait la singularité du lieu.